SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant plus de 30 minutes aujourd'hui pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Une émission un petit peu spéciale puisqu'elle va se dérouler en deux parties. Première partie, on fera comme d'habitude, hein, vous verrez le débrief du match, on parlera du résultat des jeunes et du prochain match, et surtout, en deuxième partie, on a eu droit cette semaine à l'enregistrement, c'est Loïc qui nous a fait l'enregistrement d'une interview exclusive d'Alexandre Ruiz, voilà, qui revient un petit peu sur la saison du SA15, plusieurs éléments et choses très très intéressantes, donc surtout restez avec nous en fin d'émission, parce que l'interview dure un peu plus de 15 minutes. Voilà, toujours avec moi mon acolyte Christian, bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir Fred, tout va bien, merci.
Alors Loïc n'est pas là, il est dans le Pays Basque espagnol, puisqu'il est parti couvrir le match de Top 14, Bayonne-Toulon. Donc on va se débrouiller tous les deux, Christian, il sera de retour bien sûr dès lundi. On le remercie pour l'interview qu'il a fait durant la semaine avec Alexandre Ruiz. Mais si tu le veux bien, on va lancer tout de suite le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, un sommaire, j'ai fait plus ou moins déjà, mais là on va revenir sur l'émission proprement dite. On va d'abord commencer par le débrief du match, viendra le résultat des jeunes et suivra le prochain match face à Vannes. Ce sera au Stade Chanzy, un match bien sûr très très important en vue du maintien, et donc toute la deuxième partie de l'émission sera consacrée à l'interview d'Alexandre Ruiz. Et on peut lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Christian, un débrief de match qui aurait pu être très très heureux, qui est tout de même heureux. Christian, on s'attendait à un match très compliqué pour le SA15 à Grenoble. On avait d'ailleurs pronostiqué des défaites assez lourdes, hein, nous, la semaine dernière. Et puis, finalement, le SA15 a très très bien lutté face à une belle équipe de Grenoble.
Et oui, déplacement au Stade des Alpes pour le SA15, un stade qui avait plutôt bien réussi au Violet la saison dernière, puisque les Violets avaient longtemps mené au score pour finalement s'incliner en fin de rencontre. Finalement, on va voir que le scénario de ce match de vendredi dernier a été un copier-coller avec un dénouement plus heureux, puisque le SA15 n'avait pas ramené de points la saison dernière. C'est les Angoumoisins qui ouvrent le score sur un essai de Martins transformé par Botica, 7-0 pour le SA15 au bout de 4 minutes de jeu. Et on va même passer la barre des 10 points avec la pénalité de Ben Botica, 10-0. À la 14e minute, Grenoble réagit avec la pénalité de Trouillot à la 25e minute. Grenoble donc qui est mené par le SA15 3-10 et c'est le score d'ailleurs à la mi-temps. Le SA15 qui mène de 7 points à la pause.
Ouais, un score plutôt mérité. Un nouveau joueur également, hein, Georges Tisley, qui est arrivé et qui va faire beaucoup, beaucoup de bien sur les lignes arrières pour le SA15. Une belle équipe du SA15 et on espère en seconde période que le SA15 va tenir le même rythme, même si on s'attend quand même un petit peu à ce que cette équipe de Grenoble se réveille et finalement le SA15 va tenir la dragée haute à cette équipe, Christian.
Et oui, parce que c'est le SA15 qui remarque les premiers points de la deuxième mi-temps avec une pénalité de Ben Botica à la 44e minute, une pénalité qui redonne 10 points d'avance au SA15, 13-3 à la 44e minute. Et après, on va avoir une réaction de Grenoble avec un essai. Ah non, avec d'abord une pénalité de Trouillot. Donc le SA15 mène 13-6, puis un essai de Massa transformé par Trouillot et Grenoble qui revient à égalité 13 partout. On est à la 53e minute. Le SA15 reprend l'avantage à la 62e minute avec un essai de Kitwanga. La transformation est ratée par Botica, mais le SA15 reprend l'avantage 18-13. Et malheureusement, en fin de match, le SA15 va s'incliner puisque l'essai de Blanc Mapaz permet à Grenoble d'égaliser à 18 partout. Et les Grenoblois vont prendre l'avantage suite à une pénalité à 5 minutes de la fin, une pénalité de Trouillot, qui donne 3 points d'avance à Grenoble, 21-18. Victoire, donc petite victoire de Grenoble de 3 points, mais le SA15 ne ramènera entre guillemets qu'un seul point du stade des Alpes.
Ouais, tout à fait, Christian. Alors comment analyser cette rencontre, parce que effectivement on a vu une équipe du SA15 vraiment dans son match, hein, presque maîtriser son sujet. À un moment on s'est dit tiens, cette équipe du SA15, quand elle prend l'avantage là à 20 à 13, va très certainement s'imposer à Grenoble, tant elle semblait supérieure. Et puis cette fin de rencontre est un peu plus à l'avantage de Grenoble, même si ça c'est vraiment pas passé loin. Comment est-ce qu'on doit analyser cela? Est-ce qu'il y a une forme de déception, ou revenir avec un point de Grenoble, c'est fantastique, et puis on va pouvoir préparer le match de Vannes avec sérénité? Comment on peut analyser cela?
Forcément, soit on boit le verre à moitié plein, soit on le boit à moitié vide. Moi je suis plus à le boire à moitié plein, dans le sens où ce match du Grenoble est quand même positif. Lorsqu'on voit les dernières sorties du SA15 à l'extérieur, que ce soit du côté de Dax, du côté de Mont-de-Marsan, où vraiment ils avaient pris la marée avec des scores vraiment larges, là ils auront vraiment été dans le match jusqu'au bout. Ils auraient même pu potentiellement ramener un nul. Donc ce point pris est plutôt bon, hein, quand on voit Grenoble qui a été gagné quand même à Vannes. C'est une équipe qui mérite mieux que son classement, du fait qu'elle a eu beaucoup de points de pénalité. Donc ramener un point de Grenoble, je pense que c'est un point qui peut compter sur la fin de saison. On voit que les autres concurrents du SA15 ont tous ramené au minimum un point de bonus défensif. Donc c'est forcément un point important, un point qui permet justement de garder l'écart par rapport à des équipes comme Biarritz, Montauban ou Rouen. Et puis c'est un match qui lance parfaitement ce bloc. On sait que les confrontations prochaines vont être compliquées. C'est d'aller se rassurer à Grenoble à l'extérieur, parce que c'est vrai que ça faisait quelques sorties où c'était compliqué. Eh bien, c'est positif. Maintenant, le positif de la chose, pour moi, forcément, des points pris ou des points non pris, c'est à mettre en perspective avec ce qui va se passer derrière. Donc, c'est à voir si le SA15 parviendra à bonifier ce point lors de ses prochaines sorties.
Ouais, tout à fait. On en parlera tout à l'heure, hein, lors du prochain match, hein, qui sera face à Vannes. Dans le même temps, lors de cette 24e journée de Pro D2, il y avait des matchs, bien sûr, qui intéressaient le SA15. Le premier, pas forcément, c'était jeudi soir. C'était le Stade Montois qui recevait Brive. Et dans ce match au sommet, les deux équipes sont restées à égalité sur le score de 22 partout. Aurillac a perdu. Et ça, c'est quand même une surprise, hein, sur son terrain, puisque les Aurillacois, habituellement, s'imposent à chaque fois chez eux et éclatent à l'extérieur. Et là, c'est Provence Rugby qui est allé s'imposer à Aurillac 24-20. Un match qui nous intéressait, c'est Béziers qui recevait Biarritz. Béziers s'impose 35-31, donc Biarritz repart avec le point de bonus défensif. Valence-Romans s'impose très difficilement face à Nevers 15-13, dans un match qui a tenu ses promesses et qui jusqu'au bout a été très très indécis. Montauban est à nouveau battu sur son terrain, cette fois par l'US Dax, qui n'en finit plus de surprendre, hein, finalement. Équipe promue, on le rappelle. L'US Dax s'impose 33-29, donc Montauban prend également un point de bonus défensif, mais chez eux. Grenoble s'impose, on l'a vu, face au SA15, 21-18, point de bonus défensif pour le SA15. Agen s'impose très difficilement et dans la douleur face à Rouen, 24-23, point de bonus défensif également pour Rouen. Et enfin, Vannes s'impose également difficilement, puisqu'ils avaient pris un départ catastrophique, hein. Colomiers menait 10-0. Vannes s'impose 34-31 face à Colomiers, bonus défensif pour Colomiers. On va voir qu'au classement, Vannes est en tête, premier avec 71 points, à égalité avec Béziers qui est deuxième avec 71 points également. Troisième, Provence Rugby, 70 points. Quatrième, le Stade Montois, 63 points. Nevers est cinquième avec 62 points. Sixième, l'US Dax, 59 points. Brive est septième avec 58 points. Colomiers, huitième, 56 points. Neuvième, Grenoble, 56 points également. Dixième, Agen, 55 points. Onzième, on retrouve Aurillac avec 52 points. Valence-Romans est 12e avec 47 points. 13e, le SA15 qui remonte, 44 points, qui est égalité de points avec Biarritz, mais devant, grâce à des meilleures performances, hein, dans leur duel. Donc Biarritz qui est 14e avec 44 points également. Et les deux derniers sont 15e, Montauban, 41 points. Et Rouen, toujours dernier, mais pas si loin que ça de Montauban, 16e avec 35 points. Christian, quand on analyse ce classement, on se rend compte que le SA15, finalement, gagne une place. Que le SA15 est pas si mal que ça, et puis surtout, que Montauban, après sa défaite à domicile, est en grand, grand danger. Qu'en penses-tu?
Ben oui, effectivement, la course au maintien se poursuit. Il y a un statu quo pratiquement ce week-end, mis à part la victoire de Valence-Romans, qui remporte ce match dans les dernières minutes contre Nevers, et qui fait donc la bonne opération du week-end. Mais c'est plutôt une bonne opération pour le SA15, hein, sachant que Montauban recevait chez lui et que le SA15 se déplaçait. Donc on pouvait craindre que Montauban revienne sur cette équipe d'Angoulême, mais finalement, il y a eu un statu quo avec un point pris de chaque côté. Donc c'est plutôt une bonne opération pour le SA15. L'opération maintien se poursuit. Il reste 6 journées. Et maintenant, c'est Montauban, hein, qui a la pression, parce qu'ils sont avec 3 points de retard. Donc eux, ils sont obligés de prendre des points. Ce qu'on peut affirmer, en tout cas, c'est que si Montauban perd tous ses matchs, le SA15 sera sauvé. Donc voilà, l'opération maintien se poursuit. Plutôt un bon week-end de passé. Et surtout, c'est un week-end de passé où le SA15 n'est toujours pas dans la zone rouge. Donc la ligne d'arrivée se rapproche. Et la ligne rouge est toujours derrière.
Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, on croise les doigts. On va parler dans un instant, après les résultats des jeunes, là, du prochain match, et puis surtout de son duel, hein, avec Montauban maintenant, qui, on va le voir, se déplace à Provence. Donc il y a un coup à faire face à Vannes. Très bien. Mais écoute, on a terminé avec ce débrief de la 24e journée concernant le SA15, qui, on le rappelle, hein, se déplace au Stade des Alpes à Grenoble et a ramené un point. Nous allons pouvoir désormais passer aux résultats des jeunes.
Le SA15 Magattitude. SA15 Magattitude. Le résultat des jeunes.
Christian, les jeunes étaient également sur le terrain mitigé, puisqu'il y a 2 défaites et une victoire. On va commencer par une défaite, malheureusement une défaite lourde des Goderman, qui ont été battus sur le score de 56-0 par La Rochelle. Par contre, on va voir que les M18, eux, qui recevaient Vannes, ont eu les ressources nécessaires et se sont imposés sur le score de 25-14. Une très très belle rencontre face à des Vannetais qui partaient plutôt favoris, hein, à la base, mais le SA15 a prouvé toute sa valeur et surtout sa progression constante. Les M16, quant à eux, ont perdu, mais bon, sur un score on va dire raisonnable, puisque Colomiers s'est imposé sur le score de 35-13. Bilan mitigé, hein, pour les jeunes, Christian, mais quand même, on voit que cette deuxième phase est quand même un peu plus abordable pour toutes ces équipes du SA15, même si, bon, on le rappelle, hein, les Goderman face à La Rochelle ont perdu 56-0.
Une victoire, 2 défaites, hein, c'est le bilan des 3 équipes de jeunes. C'est plutôt positif, hein. Il y a beaucoup de week-ends où ça faisait 3 défaites pour 3 matchs, donc non, c'est bien de l'avoir remporté. En plus, face à Vannes, qui est un club un peu équivalent à Angoulême, en tout cas dans la formation. Donc c'est bien de l'emporter, c'est bien de se rassurer. Et puis pour les autres, se confronter à des équipes comme Colomiers, comme La Rochelle, qui sont quand même des monuments du rugby français, et puis qui sont des formations reconnues. Même s'il y a des lourdes défaites pour certains, c'est toujours formateur de se confronter à ce genre d'équipe. C'est ce qui fait progresser. Et il faut prendre les choses dans le bon sens, à se dire que c'est des confrontations qui sont intéressantes et qu'elles sont forcément formatrices pour l'avenir.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, on en a terminé avec le résultat des jeunes. On espère, bien sûr, on croise les doigts, hein, que ces jeunes se fassent plaisir surtout, et puis ramènent des victoires, hein, sur les matchs qui leur restent à venir. On va pouvoir tout de suite passer au prochain match du SA15. Ce sera dès vendredi, ce sera au Stade Chanzy, et ce sera surtout face au leader Vannes.
Le SA15 Magattitude, le prochain match.
Christian, un leader Vannetais qui se déplace au SA15 après une courte victoire à la Rabine. Le SA15 doit-il s'attendre à prendre la foudre, ou le SA15, après toutes ces victoires à domicile, 6, hein, si ma mémoire est bonne, d'affilée, a-t-il les armes pour battre cette équipe vannetaise?
C'est vrai que le SA15 en 2024 est très performant à domicile, hein, puisqu'il me semble qu'ils ont presque tout gagné.
C'est 6 victoires, il me semble, à domicile.
Ouais. Donc forcément, de la confiance avant d'aborder ce match, surtout que Vannes, après un début de saison tambour battant, où ils s'étaient vraiment décrochés des autres, ils sont un peu rentrés dans le rang, hein, puisque Béziers, Provence Rugby est revenu. C'est une équipe de Vannes qui reste sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs. Donc c'est un défi, un gros défi pour le SA15, mais un défi qui n'est pas non plus impossible. Je parlais de bonification tout à l'heure, ça va être important forcément de prendre des points au pluriel, donc ça veut dire 2, ou ça veut dire 4, ou ça veut dire 5, parce que derrière, il faut profiter de ce déplacement de Montauban à Provence Rugby pour creuser les écarts, hein. Et donc Bah, ça va être un match intéressant. Ça va être un match aussi de gala pour le SA15, pour le public, hein, parce que bah, de recevoir le leader, ça n'est jamais anodin. Maintenant, voilà, il faut prendre cette motivation d'affronter le leader et de le transformer en pression positive pour aller faire quelque chose contre Van.
Ouais, tout à fait. Et comme tu le disais, hein, bah Montauban se déplace et se déplace à Provence Rugby. Ah, cette équipe de Montauban, quand elle voit ce qu'elle a été capable de faire face à Dax, devrait quand même souffrir à Provence Rugby qui bah, Provence Rugby joue la première place hein, avec Van dans ce duel à distance en cas de victoire du SA15. 7 points d'avance, ça commencerait à parler quand même, hein, à 5 journées de la fin de ce championnat, on pourrait commencer à espérer, alors pas forcément un maintien assuré rapidement, mais enfin en tout cas se prendre un peu d'air, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais en cas de victoire du SA15, il y a quand même une sacrée option de prise sur ce maintien.
C'est vrai que la victoire du SA15 combinée à une défaite de Mont-de-Marsan, de Montauban, pardon, ça ferait que Montauban devrait gagner 2 matchs de plus qu'Angoulême en 5 journées, sachant que l'année 2024 est quand même cauchemardesque pour Montauban, hein, parce qu'on le rappelle, leur dernière victoire c'était contre le SA15, c'était en tout début d'année, en janvier il me semble. Donc du coup, forcément, ça paraît très compliqué sur le papier pour Montauban de gagner deux matchs de plus que le SA15 en 5 journées seulement. Donc ouais, c'est un week-end qui peut être charnière pour Angoulême. C'est un week-end où le SA15 peut faire un pas presque décisif en vue du maintien. Il restera des rencontres, il restera forcément des points à prendre derrière. Mais c'est vrai que s'il y avait cette corrélation entre victoire d'Angoulême et puis défaite de Montauban, eh bien c'est vrai que le SA15 creuserait un écart tout à fait intéressant.
Ouais, d'autant plus que Biarritz devrait, alors pas forcément repasser devant le SA15 en cas de victoire, mais enfin tout au moins, si le SA15 prend 4 points, au moins recoller au SA15 et pourquoi pas même passer devant le SA15 puisque Biarritz reçoit Aurillac, une équipe qui se déplace quand même très très difficilement. Dans le même temps, Valence Romand, par contre, a un match compliqué, hein. Ils reçoivent le Stade Montois. Donc, est-ce que cette lutte, pour toi, Christian, va se résumer un duel avec Montauban, ou est-ce que bah, il y a encore ces équipes-là, Valence Romand et Biarritz, qui sont encore dans cette course au maintien?
Ouais, tout à fait, hein. C'est vraiment une course au maintien entre 5 équipes, même peut-être 6, hein, si Aurillac commence à faire une série négative. Finalement, Aurillac n'a que 11 points d'avance sur Montauban. Alors ça peut paraître beaucoup, mais ça peut vite se réduire comme écart. Hein, une série d'un côté, une série défavorable de l'autre, et ça peut vite se réduire, même si forcément pour l'instant on les inclut pas dans la lutte. Bah effectivement, pour moi c'est vraiment une lutte à 5, parce qu'il faut pas oublier que Rouen, qui est 16e, n'a pas encore rendu les armes, qui sont allés chercher un bonus défensif du côté d'Agen.
Et puis ils reçoivent Béziers là d'ailleurs.
La configuration de la Pro D2 actuelle, elle fait que cette 15e place, elle est pas relégable d'office, donc c'est 15e place qui est une belle carotte pour cette équipe de Rouen, qui sait que en terminant 15e, bah il y a encore l'espoir d'aller sauver. Donc voilà, c'est une équipe, c'est un maintien pour c'est une lutte avec 5 équipes pour une place et demie, puisque bah du coup le 15e est encore un peu incertain. C'est une lutte de toutes les instances. Moi j'ai coutume de dire que personnellement je regarde pas le classement si mon équipe perd, par contre je le regarde si mon équipe gagne. Donc voilà, pour le SA15 bien sûr il faut se focaliser sur les adversaires, sur ce que font les adversaires, mais il faut avant tout se focaliser sur soi-même, parce qu'au final, en prenant les points, bah, ils n'auront pas à regarder ce que font les autres. Donc oui, bien sûr c'est une lutte contre 4 équipes, mais avant tout la lutte elle est contre soi-même, hein. C'est si tu prends les points sur le terrain, bah il y a pas besoin d'aller regarder ce que font les autres, de faire des calculs, parce que les points pris seront des pas décisifs vers le maintien.
Eh bien écoute, en tout cas on croise les doigts, on espère vraiment qu'il y aura une victoire du SA15 face à Vannes. On le rappelle, ce sera au Stade Chanzy, ce sera à 19h30 et ce sera le match à gagner, je pense, pour pouvoir s'assurer peut-être un maintien un peu plus tranquille, pas avoir besoin de trembler jusqu'à la dernière journée. Très bien, eh bien écoute, on va laisser passer une page de publicité, et le grand moment arrive, hein, c'est l'interview qui a été réalisée dans la semaine par Loïc, l'interview d'Alexandre Ruiz qui arrive dans un instant.
Le SA15 Mag Attitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude. SA15 Mag Attitude, l'invité de la semaine.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alexandre ou Alex, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent Alex. Merci d'être avec nous ce soir où les supporters du SA15 et d'autres nous écoutent. Tout d'abord, mais bon anniversaire en retard pour commencer.
Merci.
C'était ce week-end. On va parler ensemble en fait de ce dernier tiers du championnat qui arrive, qui est même là, hein, on peut dire, il reste encore 7 journées, mais aussi on va parler un peu de l'avant, parce que c'est la première fois que tu es avec nous cette saison. Mais pour commencer, est-ce que cette pause au mois de mars a pu faire du bien aux joueurs et aussi au staff? Est-ce qu'elle est arrivée au bon moment, cette pause?
Elle arrive au bon moment pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est valider les 3 réceptions positives qu'on a eues, et ça a permis aux joueurs de partir la tête un peu plus reposée que celle que la période où on a commencé après la pause de Montauban. Donc ça, c'est un premier point positif. Le deuxième, c'est que nul n'est sans oublier le fait qu'on est beaucoup blessés et que les mêmes joueurs s'entraînent, les mêmes joueurs jouent. Donc il fallait régénérer les corps et les têtes. Donc et pour certains d'entre nous qui avons la famille un peu lointaine, ça faisait entre 4 et 5 semaines qu'on les avait pas vus. Nos proches, donc je parle en l'occurrence de moi qui n'avais pas eu mes enfants, et donc passer une semaine avec des enfants de 8 ans et 10 ans que tu vois pas pendant 5 semaines, ça fait aussi du bien, en effet, pour eux comme pour moi.
Ouais, c'est sûr que cette année, alors la Pro D2 est un peu différente, hein, parce qu'il y a eu, je crois que c'est le deuxième bloc de 5 matchs qu'il y a cette saison. Avant, c'était plus des blocs de 3 matchs. Ça
a fait 1 de 4 matchs en début de saison, enfin, 1 de 4 matchs très tôt dans la saison, et après c'était les blocs plus courts en vue de la Coupe du Monde. En effet, là, c'est des blocs de 5, et c'est vrai que les blocs de 5 sont hyper usants physiquement comme mentalement, parce que tu t'entraînes sur des semaines sur des blocs de 6 semaines, puisque tu reprends la semaine avant, et c'est vrai que c'est énergivore physiquement quand tu n'as pas tout l'effectif, et mentalement quand tu n'as pas tout l'effectif, et tu t'entraînes toujours avec les mêmes, et les mêmes jouent, donc automatiquement ça fatigue un petit peu les corps, et aujourd'hui on était un petit peu fatigué. Ce qui aujourd'hui fait du bien, c'est que on vit super bien ensemble et que l'état d'esprit est génial. Et donc les mecs se surpassent, et on a pu le voir sur les dernières rencontres.
Tu dis que les mecs se sentent bien et eux aussi s'entendent bien et tout ça. Et au tout début de saison, tu parlais énormément du projet. Tu en parlais énormément en conférence de presse et tout ça. Est-ce que le projet vu par Alexandre Ruiz a été respecté ou pas totalement si on le prend maintenant?
C'est tôt d'en faire des conclusions. Le projet, en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs éléments. Je caractérise le projet sur plusieurs critères. Le premier, c'est l'état d'esprit. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça, c'est en progression et en phase d'acquisition, donc c'est hyper intéressant. Ensuite, le projet en termes de rugby, on l'a évalué en 3 tiers. Là, on est sur un dernier tiers de la saison. Le premier, c'était la découverte pour certains, soit par mon niveau de discours, la nouvelle façon dont je vais qu'on joue. Donc, c'est une partie de découverte. Le deuxième, c'est cette acquisition, acquérir un petit peu les demandes et ce que j'attendais. Et le troisième, c'était l'appropriation. Et aujourd'hui, on est dans cette période d'appropriation. Les joueurs s'approprient vraiment le projet à plein nez. Il reste 7 journées pour valider ce que je suis en train de dire maintenant. Mais en tout cas, c'est plus simple aujourd'hui de faire passer mon message que il y a 6 mois. À partir du moment où c'était nouveau, il faut changer les habitudes. Ça faisait 3 ans et demi que vous avez même manager. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes caractéristiques d'hommes. Et en tout cas, voilà, dans ma façon de manager, j'ai peut-être une façon différente de celle qu'avaient mes prédécesseurs. Et ce qui était important aussi, c'est que les joueurs puissent s'adapter, s'approprier ma façon de faire, et à moi à la fois m'approprier aussi la façon d'agir des mecs. Donc on imagine toujours, quand on est en formation, on dit toujours qu'un projet il est en 3 temps, et on est sur le 3e temps du projet, le 3e tiers de la saison. Donc je pourrais en faire des conclusions en tout cas à la partir de la 30e journée, parce que ça sera celle-là qui dictera la vérité. Donc à partir de là, compliqué à la 23e journée de faire des bilans, c'est pas le moment. Mais par contre, est-ce qu'aujourd'hui, le bien vivre ensemble est un critère important? Je crois que oui.
Et si on avance un peu dans la saison, j'imagine que tu as analysé tous les matchs du SA15 et notamment les derniers matchs. Comment tu peux expliquer qu'à l'extérieur, Soyo à Angoulême faisait d'énormes coups à l'extérieur, même si c'était des défaites, ça ramenait toujours un petit point de bonus. Et il y a eu aussi une victoire à Brive, et que ces deux dernières rencontres dans les Landes, il y a eu beaucoup de déceptions pour le public, mais aussi, j'imagine, pour toi et pour les joueurs. Comment ça peut s'expliquer, ces déceptions qui sont arrivées brutales en février?
Mais je ne les explique pas entièrement, mais en tout cas, je peux essayer d'amener des bouts de réponse. La première des réponses, c'est que j'avais axé ma philosophie, en tout cas mon message au début du bloc, en disant qu'on avait trois réceptions, et c'est ce qui comptait à la base. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas batailler, on n'a pas, d'un, l'effectif, deux, la capacité de batailler tous les matchs. Donc, on a fait des choix d'organisation d'équipe et de stratégie. Donc, même dans mon discours au tout départ, il y avait trois matchs à la maison, et c'était ceux qui comptaient. C'était ceux-là qu'il fallait pas perdre pour engranger minimum 12 points, ce qui nous paraissait important sur le bloc. Donc ça, c'était mon premier message avant qu'on entame le bloc. Donc peut-être que ça aussi, c'est une erreur de message au tout départ, et c'était ma responsabilité. Le deuxième, c'est que les deux équipes qui ont joué... Peut-être un peu moins la DAX, mais beaucoup plus à Mont-de-Marsan, où il y a des équipes en rotation avec le manque d'habitude et de cohérence, surtout en Monde 2. Donc voilà, j'avais pris le parti à Mont-de-Marsan de faire une certaine rotation. Et en tout cas, c'est ce qui m'a aussi amené à faire des choix. Et donc j'ai fait ces choix-là à partir du moment où je ne voyais pas la capacité à notre effectif d'enchaîner 5 matchs, il fallait que je... dans des priorités. Donc, il est vrai que c'était un choix stratégique au tout départ, et j'en conviens parfaitement pour dire, et c'est le message qu'on a envoyé cette semaine au retour de vacances, qu'on devait être l'équipe qui voyageait du début de saison, de Béziers, de Biarritz, et pas celle de Dax et Mont-de-Marsan. Mais je partage tout à fait ce point de vue-là, puisque je le fais, tu as dit depuis le début, parler de projet, je vais continuer à faire ce que je fais depuis le début, c'est assumer des responsabilités, et je m'en suis dérogé à aucune, et je vais pas le faire maintenant, et c'est la mienne d'avoir construit ces équipes-là.
Ton équipe est quand même la sixième défense du championnat. C'était un point important pour toi, cette défense, et aussi la discipline, notamment avec la venue de Laurent Cardona en supplément dans le staff.
Mais en fait, je crois que c'est pas... faire preuve de minimaliste, de dire que le rugby commence devant et qu'à partir du moment où tu as une conquête qui est cohérente, une touche, une mêlée qui fonctionne, une défense qui est cohérente et une discipline qui est bonne, voilà, à y rajouter le jeu au pied et fur et à mesure par parcimonie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on y amène de l'aspect offensif. On est à 7 journées de la fin et on est à 7 essais de différence, aujourd'hui on est à 7 essais de moins que le bilan entier de la saison dernière. Donc voilà, donc on sait qu'on doit progresser sur l'aspect offensif, mais ces derniers temps et ce dernier bloc nous a montré qu'on était en capacité de se créer des opportunités, ce qu'on a fait très bien à Dax, si j'enlève les 20 premières minutes qui sont pas dignes de la Pro D2, mais une fois qu'on a passé les 20 premières minutes, eh bien on s'est créé énormément d'opportunités, je crois que c'est 12 ou 13 à Dax. À partir de là, pas capable de les concrétiser évidemment, mais en tout cas, on avait la genèse de notre projet qui prenait forme. Mais on s'en est rendu compte. On marque trois fois contre Valence. Voilà, on marque aussi contre Biarritz. On marque contre Provence. Donc, on se crée des opportunités, bien évidemment, et ça, c'est très très important pour nous. Après, maintenant, il faut qu'on soit en capacité d'être plus tueur. J'en ai pour preuve Montauban, j'en ai à la maison, j'en ai pour preuve Nevers, où on fait un lancement magnifique en première main d'entrée de match, on marque pas. Voilà, il faut qu'on soit plus tueur. Les joueurs sont dans la phase d'appropriation sur le dernier tiers, comme je te disais, donc ça fait trois matchs pour moi, si on compte bien, où ils sont appropriés le projet. Et maintenant, il faut qu'ils soient juste un peu plus relâchés, moins tendus, moins de pression. Et c'est ce qu'aujourd'hui, dans le discours d'entraînement, il est porté vers ça aussi, puisqu'on pense que maintenant, ils se sont appropriés le projet. À nous aussi, le staff, de faire un pas en arrière pour leur laisser vraiment la liberté de s'approprier ce dernier.
Alors, ça a été officiel aussi, un nouveau joker médical est arrivé, oui. Tout droit d'Agen, hein, Georges Tisley, un ailier qui peut jouer centre aussi. Comment s'est passé le contact avec lui et les négociations, ou même les premiers pas à l'entraînement?
Les négociations, elles ne sont pas faites avec moi. Si des renseignements doivent être pris, ça sera pris avec la direction. Ce qui m'incombe à moi, c'est la partie rugby. La partie extra-rugby aussi, parce que je pense que c'est lié à mon sens. La première des choses, c'est qu'on était en manque de joueurs derrière, avec la blessure de Corentin Glénat qui a fini la saison, et s'est rajouté la longue blessure avec Mathis Lafond qui a aussi terminé la saison. Et donc on pouvait pas se permettre d'y rajouter Maxime Lafond, vu l'indisponibilité jusqu'à la fin de ce bloc-là de Marvin Nestromo. Donc on pouvait pas se permettre de continuer la saison comme ça, ça c'est un fait. Ensuite, sur le marché, peu de joueurs d'expérience étaient disponibles rapidement. Ça avait suivi la proposition, la disponibilité de Georges Tisley, où on pourrait être unanime à 100%, mais je crois que la terre du rugby pourra dire que c'est un excellent joueur, qui a une expérience magnifique. Il a beaucoup d'expérience, je crois que c'est 90 matchs à Perpignan, moi en top 14 en tout cas, parce qu'il y a Bordeaux aussi. Il y a eu 70 matchs, je crois, environ en Pro D2, dont à Gien avec son expérience. Ce qui allait de la vie privée, je laisserai les inconditionnels et les gens fanatiques des réseaux sociaux pour porter des jugements, car il aurait plus simple de balayer devant la porte des autres que la leur. Donc chacun en aura son avis, et libre à chacun, je ne porterai pas de jugement sur la valeur des gens. Par contre, j'ai eu en face de moi une personne qui a un choix de vie avec qu'on a le droit de ne pas partager, bien évidemment. Chacun a le droit de porter un jugement. Par contre, moi, je l'ai vu agir depuis une semaine sur le terrain, et ce que j'attends de lui, c'est ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Donc, je m'arrêterai à ça. Aujourd'hui, il a joué en Nouvelle-Zélande de jeunes avec Sikely Nabou, qui connaît très bien. Et pour nous, c'est un bon lien, parce qu'aujourd'hui, il partage la colocation avec Sikely. Et Sikely, quand on en connaît ses valeurs, on se dit qu'il est entouré de bonnes personnes, et voilà ce qu'il faut retenir de tout ça.
Pour parler des derniers matchs de la saison qui arrive, il y a plus de prétendants aux phases finales qu'au maintien pour les prochaines rencontres. Est-ce qu'on regarde ça, le calendrier en entier, ou est-ce que la mission est de prendre match par match?
Non, en fait, on sait qu'il en reste 7, on sait que ça va se jouer en deux temps, le premier bloc de 5 et le bloc de 2. On sait qu'on va aller le dernier bloc de 2 à Rouen, et on va recevoir Béziers pour la dernière journée. Donc avant ça, il restera deux réceptions avec deux gros morceaux. Brice qui veut jouer le top 6 et Van qui veut jouer le top 2. On a aussi conscience que dans ce bloc-là, on va devoir aussi être en capacité de mieux voyager que ce qu'on a voyagé le bloc d'avant, tout en assurant les deux réceptions à la maison qui seront aussi primordiales, me semble-t-il. Donc on a conscience du calendrier, on sait qu'il va se jouer en deux temps. Donc c'est se jeter dans la bataille dès vendredi soir, se relever à la fin de Nevers, partir se reposer quelques jours et revenir sur le dernier moment de la vérité de la saison.
Une dernière parenthèse qui est à voir un petit peu aussi avec le SA15, mais tu as été arbitre de plus en plus de cyprès dans les stades, ce que je retrouve regrettable pour ma part. Je voulais avoir un peu ton ressenti dessus. Est-ce que ça ne sort pas un peu l'arbitre de son match, des fois, cette pression du public avec ces sifflets, toi qui a été arbitre précédemment?
Pour répondre à ta question, est-ce que je trouve ça bien? Je te dirais non. Je l'ai fait part d'ailleurs après le match à Aurillac, où j'ai trouvé honteux de siffler Corentin Glénat sur la dernière pénalité. Je crois que le public tellement nombreux de Aurillac, à 1453 personnes, ils ont des leçons à donner à personne, si ce n'est les valeurs des gens. Je trouvais ça catastrophique, et d'ailleurs j'en ai fait part. Je trouve ça minable d'être en capacité de siffler des buteurs. Je crois que des clubs en font la promotion, hein, de leur capacité à avoir le respect vis-à-vis des équipes. Donc ça, c'est une force. Je trouve ça très bien qu'on puisse véhiculer ce message-là. Je crois que aujourd'hui, le message qu'on véhicule les grands est retenu par les petits, et il ne faut pas se plaindre quand on voit dans le rugby amateur des dérives aujourd'hui sur les arbitres, le petit niçois que je trouve hyper honteux. Et d'ailleurs, j'ai pris le temps de l'appeler et prendre ses nouvelles. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je cautionne ça? Pas du tout. Est-ce que je crois que le public de Chanzy est unanime pour dire qu'il faut respecter ça, et j'entends pas beaucoup de sifflets dans le stade de Chanzy. Et ta dernière remarque, est-ce que ça met la pression sur l'arbitre? Je parlerai qu'à mon nom propre, parce que je ne suis pas dans la tête des autres. Moi, je n'avais aucune attention particulière à ces sifflets-là. Ça ne portait aucun regard sur ma décision ou sur ma façon d'être. Juste quand j'avais conscience de ces valeurs qui n'étaient pas adaptées à celles que moi je pense, je trouvais ça pas bien, mais je trouvais que ça prenait des dérives de d'autres sports qu'on connaît. et qui aujourd'hui sont sifflés de la première à la 90e minute. Donc, soit on est tous responsables, aujourd'hui on a conscience de ça, soit on dit que, comme fausse excuse, on se sert du problème sociétal, on dit qu'il y a une évolution dans la société, et de ce fait-là, eh bien, on peut siffler. Mais c'est des raccourcis que moi, en tout cas, père de famille à mes enfants de 8 ans à 10 ans, je leur dis de ne pas faire.
Une dernière question sur un arbitre que tu connais bien, Mathieu Reynal, qui a annoncé sa fin de carrière d'arbitre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur lui, sur sa carrière? Et aussi, est-ce que tu as peut-être une petite anecdote sur lui?
Non, mais en fait, je vois que beaucoup de gens aujourd'hui ont pris le temps de faire part de jolis messages. Je prendrai le temps, moi, de voir avec lui. C'est la même chose qu'il a fait 2-3 jours après mon annonce de départ de l'arbitrage il y a 3 ans, moins 2 ans et demi. La seule chose, je disais ce matin au bureau, là, parce qu'on est pas en journée off, mais on a quand même bossé au staff. Je disais juste que, voilà, moi, je retiens la carrière qu'on a partagée ensemble. J'ai fait 10 ans d'arbitrage de haut niveau et je les ai vécues avec lui. On a des expériences, des anecdotes pas particulières. On a partagé des matchs, c'est évident. On a fait des matchs de Coupe d'Europe ensemble, des matchs de championnat. On a fait la Coupe du Monde en 2019 au Japon ensemble. Donc, on a quand même des liens qui sont tissés entre nous et qui resteront gravés à vie. J'étais au courant de son carrière depuis 2 mois. Il avait pris le temps de m'appeler, lui et Romain, sur des différents sujets, Romain Poite. Donc, j'étais déjà au courant et j'avais déjà part de ça. Après, quand on voit, il a fait 350 matchs de haut niveau. Je crois que c'est juste, ça demande du respect. Mais aujourd'hui, on a respecté Mathieu. Tout le monde va y envoyer des messages. Et quand demain, il va arbitrer en top 14, ce seront les mêmes personnes qui ont pris le temps de lui envoyer des messages et faire semblant de dire bravo, monsieur Reynal, pour l'insulter après-demain. Donc, à tous ces réseaux sociaux, je ne suis pas très attaché. Je trouve ça, pas très honnête. Je préfère la relation entre les hommes et la relation de franchise. Et il m'importe plus de lui envoyer un petit message en tête à tête ou l'appeler comme on a l'habitude de se faire, parce qu'on l'a fait, avec Laurent, on l'a eu il y a 3 jours sur une question de règles, lundi. Donc, je préfère m'attacher à ça que faire comme tout le monde, pas être direct et honnête et faire, je vais pas dire les faux culs, mais j'en pense pas moins.
Ok, très bien. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Magattitude.
Et voilà, nous espérons que cette émission vous a plu, hein, dans un premier temps, bien sûr, tout le débrief du match et puis surtout l'interview exclusive faite dans la semaine d'Alexandre Ruiz par Loïc. On en sait un petit peu plus sur les coulisses du SA15. Et puis, bien sûr, on encourage cette équipe, on est à fond derrière elle, on espère réellement un maintien en Pro D2. Pour rappel, le match important face à Vannes aura lieu à Chanzy, ce sera vendredi à 19h30. Venez très très nombreux encourager l'équipe, elle aura besoin de vous. C'est peut-être 4 points qui vont permettre à cette équipe de pouvoir se maintenir. Donc n'hésitez pas à venir au stade et à être présent derrière votre équipe. Nous, on vous donne rendez-vous, bien entendu, lundi prochain, même endroit, même heure. Salut.
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.